Bon, tout d'abord, bonjour à tous. Je voulais dans un premier temps m'excuser hein, d'une intervention en visioconférence. Voilà, je crois que nous avons tous souffert de cette modalité de travail et que bon, voilà, on est dans autre chose et c'est vrai que revenir sur cette modalité, c'est pas simple et pour vous et pour moi. Bon, tout simplement, voilà, il y a eu un raté, je pense, de mon côté concernant cette journée. Donc, du coup, au dernier moment, j'ai pas pu m'organiser pour un déplacement et venir à votre rencontre, ce que je regrette parce que, évidemment, voilà, une thématique comme celle-ci suppose qu'on puisse échanger sur nos pratiques, sur notre clinique. Bon, ce qui est moins idéal si ça se fait par visioconférence. Bon, néanmoins, on va essayer voilà, de faire en sorte que ma présence absence se fasse sentir le moins possible. Alors c'est vrai, en vous écoutant Maëlle, que quand vous m'avez sollicité, la question que vous souhaitiez traiter, c'était celle de l'agir violent délinquant à l'adolescence avec une articulation au traumatisme et éventuellement une ouverture du côté des méthodes projectives. Sauf que en vous écoutant, je réalise qu'en préparant mon intervention, je n'ai pas ouvert sur les méthodes projectives, mais c'est pas grave, hein, on va se rattraper. J'ai pris une autre orientation qui m'a semblé intéressante pour les collègues en fait dans leur pratique clinique, mais je pourrais tout à fait répondre aux questions s'il y en a. Concernant peut-être l'articulation avec les méthodes projectives, on va dire comme ça. Bon, déjà, en une heure, hein, traiter la question de l'adolescence, de l'agir violent, délinquant à l'adolescence, et tout ça en lien avec le traumatisme, c'est un pari. Voilà, moi j'ai préparé une intervention et c'est avec, des retours conceptuels sur toutes ces notions, en fait. Et ça fait déjà beaucoup. Donc bon, du coup, c'est probablement aussi pour ça que m'a échappé la question des méthodes projectives. Mais bon, comme je le dis, hein, c'est pas rigide, hein, l'intervention que je vous propose, et que on pourra tout à fait dans le temps d'échange discuter des méthodes projectives. Je pourrais aussi, voilà, si moi ça me paraît cohérent et que j'ai des exemples en tête, faire le lien aussi avec les méthodes projectives. En fonction des éléments que je vais aborder ici. Ensuite, ce que je voulais préciser, c'est que, évidemment, préparer une intervention comme celle-là pour des collègues psychologues, c'est pas simple, tout simplement parce que je n'avais pas idée de ce que pouvaient être vos attentes concernant cet ensemble-là, clinique de l'agir violent délinquant de l'adolescence et de ses liens au traumatisme. Donc, quelles sont vos attentes, quelles sont vos questions, quelles sont les notions hein, conceptuelles sur lesquelles vous aviez envie, besoin de revenir un peu plus particulièrement. Non pas ce que je vais aborder là, c'est des choses que je considère comme inconnues de votre part. Bien évidemment, ce que je vais aborder là, c'est des choses que vous connaissez déjà. Mais voilà, j'ai essayé de vous permettre, par cette intervention, de repenser un petit peu les éléments conceptuels, tout simplement parce que quand on est dans la pratique clinique, eh bien on est dans l'action. Et quand on est dans l'action, on n'a pas toujours la possibilité de prendre du temps, de l'espace pour réfléchir, d'un point de vue théorique. Bon, voilà, donc du coup, c'est un peu comme ça que j'ai pensé l'intervention, une nécessité peut-être de revenir sur un ensemble de notions, tout simplement pour vous permettre de mettre la pensée au travail, en fait. Hein, voilà. Donc, voilà, l'ambition, elle est là. Hein. Alors du coup, je vais m'appuyer pour cette intervention, évidemment sur mes recherches, mais également sur ma pratique de psychologue clinicienne, puisque J'ai une petite pratique clinique dans une unité de crise et d'hospitalisation pour adolescents. En fait, c'est un service psychiatrique fermé qui dépend d'un centre hospitalier. Et c'est un service dans lequel on accueille des adolescents considérés comme en crise psychiatrique, on va le dire comme ça. Certaines de ces orientations, en fait, hein, sont des orientations qui relèvent de l'ordre... on peut le dire comme ça, hein, de la protection judiciaire de la jeunesse. On peut être saisi par le juge dans le cadre d'OPP et de recevoir aussi des adolescents pour lesquels on considère qu'il y a un trouble du comportement, parce que c'est mentionné comme ça. Et donc toujours va se poser la question de la frontière entre le soin psychiatrique et le soin, ou en tout cas la prise en charge telle qu'elle peut être proposée par la PJJ, par exemple. Vous voyez, donc du coup, voilà. Donc je m'appuierai aussi sur cette expérience probablement pour faire du lien. Je ne sais pas à quel moment, on verra comment j'avance. J'ai prévu dans mon propos deux petites vignettes cliniques, à voir aussi si on a le temps de les aborder. Donc du coup, j'adapterai en fonction du temps aussi, hein. Voilà. Alors, peut-être c'est important de préciser avant que nous démarrions, de préciser que je vais vous parler d'une place de psychologue clinicienne orientée par la lecture psychanalytique. Donc ça, c'est important de le préciser parce que vous tous, en fonction de la formation qui a été la vôtre, eh bien, c'est peut-être pas un modèle qui va résonner en vous. Je vous rassure, hein, j'essaierai je ne vais pas être dans du tout théorique, hein, donc je vais essayer de rendre très concret mon propos. Et si ça n'est pas le cas, vous n'hésiterez pas à me poser des questions en suivant. Je reviendrai volontiers sur des éléments que vous souhaitez reprendre. Alors, lecture psychanalytique avec l'idée que finalement, ce qui anime ma clinique, c'est la possibilité de proposer des hypothèses cliniques qui tiennent compte de la singularité, alors à la fois du sujet, mais la singularité du fonctionnement psychique de l'adolescent. Donc, ce que je vais aborder va être particulièrement en lien avec cette question de la singularité du fonctionnement psychique de l'adolescent. Pour traiter de l'agir violent, hein, nous allons reprendre un petit peu le processus de l'adolescence, puisque on va considérer que l'agir violent, d'une certaine manière, est en lien avec le processus de l'adolescent. Hein, donc du coup, quand on s'y confronte, et là je vous apprends rien, vous repérez bien dans votre pratique, hein, en quoi la problématique de l'agir violent de l'adolescent est au carrefour d'enjeux complexes entre soi, le soi de l'adolescent et l'autre. Hein. Donc c'est dire à quel point le rapport à l'autre va être ou peut-être particulièrement troublé. On va voir que ce rapport à l'autre particulièrement troublé, il est bien souvent en lien avec les débordements psychiques inhérents à l'adolescence, mais en même temps, tous les adolescents qui sont confrontés au processus de l'adolescence ne passent pas à l'acte. Vous voyez, donc du coup, quelle est la place de l'agir dans ce processus finalement, et qu'est-ce qui fait que l'agir, il peut présenter un caractère préoccupant, on va le dire comme ça. Donc c'est tout simplement pour signifier que pour nous, la violence adolescente ne relève pas systématiquement du registre de la pathologie. Ça peut s'inscrire dans un contexte pathologique, mais bien souvent, ça n'est pas le cas. Alors, nous allons le traiter, et j'expliquerai ça telle une modalité défensive, avec l'idée que cette modalité défensive peut être aussi en lien avec le processus pubertaire, hein, on va le dire comme ça, mais pas que. Il y a quand même toute la question de l'histoire de l'adolescence, hein, aussi, hein, qui va être mobilisée et notamment l'histoire familiale. Donc c'est la raison pour laquelle je reviendrai aussi sur la place de la famille. Donc ce qui va nous intéresser ici, c'est de questionner finalement l'agir violent dans une perspective intra et intersubjective. Intra, donc du coup dans le sens du sujet aux prises avec son fonctionnement psychologique, psychique plus exactement, et intersubjective du côté de ce rapport à l'autre. On va le dire comme ça. Alors, quels sont les objectifs du coup que je vous propose et quel va être le cheminement de notre réflexion? Alors, on va d'abord interroger en quoi la violence adolescente finalement vient figurer, on va dire, de la trace traumatique ou du traumatisme. Vous voyez, donc ça c'est une première question. Alors, du coup, quand on le pose comme ça, c'est une finalement, on sous-entend que la violence adolescente va être en lien avec le traumatisme. Alors, lorsqu'on évoque une violence l'agir violent qui va venir figurer du traumatisme, ça suppose que le traumatisme n'est pas élaboré par le sujet adolescent. Alors, je vais revenir, je vais expliquer précisément ce qu'on appelle du traumatisme non élaboré. Et donc, du coup, le questionnement qu'on avance ici, c'est que finalement, la violence est une manière de traiter, en quelque sorte, le traumatisme ou les traces du traumatisme. Alors, évidemment, dans un corps à corps violent, puisque l'agir violent va impliquer un autre. Quand, évidemment, il est question d'agir hétéro-agressif, mais ce corps à corps violent, il peut aussi impliquer le sujet avec soi. Et là, on est du côté d'agir violent, je dirais, auto-agressif. Bon, du coup, on va essayer de traiter tout ça. Vous allez voir apparaître très rapidement en quoi, finalement, il est souvent question dans cette clinique-là, d'un renversement de la violence subie à la violence agie. Donc ça, c'est quelque chose qui va, c'est une modalité, on va dire, que l'on va repérer assez régulièrement. Et c'est à partir de cette modalité-là, donc d'une clinique du renversement de la violence subie à la violence agie, que je vous propose d'ouvrir mon propos sur une lecture psychocriminologique. Voilà. Et donc, je terminerai mon propos sur cette lecture psychocriminologique, finalement, qui est plus une proposition, en fait. Donc, du coup, à vous de voir, en suivant, si ça peut faire sens pour vous dans votre pratique professionnelle. Alors, voilà les points sur lesquels j'ai souhaité revenir. J'ai souhaité reprendre le processus adolescent et ses enjeux. Je vais le reprendre, mais je ne vais pas m'attarder sur ce point-là, ni sur celui, ni sur les deux suivants. Donc, je vais essayer, d'être synthétique sur le processus adolescent, sur la question de l'adolescent et de son environnement, et sur la réalité psychique complexe de l'adolescent. Mais en tout cas, ce sont des préalables qu'il nous faut avoir en tête pour pouvoir traiter les points suivants, à savoir l'adolescence et le traumatisme. C'est parce qu'on va traiter l'adolescence et le traumatisme que l'on va pouvoir, par la suite, repérer le lien entre l'agir violent à l'adolescence et le traumatisme. Donc, du coup, on procède par étapes. On va réfléchir sur le traumatisme, puis sur l'agir violent, et ce qui nous permettra de travailler ensuite le lien entre agir violent et traumatisme. Pour discuter de ce retournement de la violence subie à la violence agie et des ouvertures que je peux vous proposer du côté d'une clinique psychocriminologique. Est-ce que ça vous va? Je vous vois pas, hein, j'ai pas de feedback, c'est dommage, mais voilà, j'ai vu un signe de main, ça me va. Alors, du côté du processus adolescent et de ses enjeux, on va revenir là sur finalement les problématiques finalement auxquelles l'adolescent est confronté dans ce processus d'adolescence et ce à quoi il a affaire et de quoi finalement il doit se défaire pour arriver progressivement à passer de ce statut, je dirais, d'enfant à l'adolescence et de l'adolescence au statut de jeune adulte. Alors, le premier point, évidemment, concerne ce qu'on appelle la quête identitaire, puisque pour l'adolescent, l'enjeu de cette période-là, c'est de pouvoir, d'une certaine manière, se construire, s'étayer sur le plan identitaire. Et dans un premier temps, cette quête identitaire va procéder par identification aux images environnementales. On peut le dire comme ça. Alors, dans un premier lieu, les images parentales. Et donc, du coup, tout ça sans être menacé par la confusion d'identité. C'est-à-dire que je peux m'identifier à mon parent sans pour autant être ou devenir mon parent. Et d'ailleurs, ça s'entend très bien du côté de l'adolescent. Alors, on voit bien là déjà que c'est une question, je dirais, centrale du processus adolescent. Alors, on peut comprendre que quand, du côté de l'environnement de l'adolescent, c'est défaillant, ou quand il n'y a pas d'environnement, étayant ou dans lequel peut s'ancrer le processus d'identification, on peut comprendre en quoi l'identité va être clairement mise à mal. En tout cas, la construction de l'identité va être mise à mal. Et donc, c'est dans ces contextes-là que finalement, les institutions du champ sanitaire, social, mais aussi judiciaire, vont prendre le relais d'un environnement défaillant et finalement peuvent se substituer aux images parentales. Alors, autre question qui s'articule à cette quête identitaire, c'est comment se séparer de l'autre, de l'image parentale, comment arriver à se différencier, et toujours pareil, sans être menacé par la perte, l'abandon. Perte-abandon, qui peut aussi conduire à une forme de dépression. Donc, pas simple pour l'adolescent de revendiquer un être soi en se différenciant de l'autre pour arriver vers une autonomisation. On pourrait dire les choses comme ça. Donc voilà tout l'enjeu du processus finalement de cette adolescence. Donc on voit bien nous dans notre clinique en quoi la question de l'identité peut faire émerger des angoisses, de confusion, d'intrusion, de ne pas être vu, d'être abandonné. Bref, tout ça pour dire que ça, c'est clairement la clinique des adolescents que vous accueillez, que vous prenez en charge. Alors, pour aménager cette construction identitaire, cette quête identitaire, deux solutions possible, enfin, on va dire qu'il y a au moins deux solutions possibles du côté de l'adolescent, soit de mobiliser des processus de créativité vers la découverte de soi, et donc je me cherche à travers l'autre, dans mes relations au père, dans mes lectures, dans mes investissements culturels ou sociaux, pour arriver justement à être moi-même, on pourrait le dire comme ça. Soit cette ouverture vers la créativité n'est pas possible, et donc du coup on peut assister à une voie vers la destructivité ou l'auto-sabotage devant une quête identitaire en impasse, on peut le dire comme ça. Alors, sur cette question de destructivité, d'auto-sabotage, j'y reviendrai tout à l'heure, puisque les ados pour lesquels nous discutons aujourd'hui sont ceux-là. On voit bien que ce cheminement identificatoire, chez l'adolescent va donc passer par un ensemble d'expériences, mais qui sont toutes constitutives du jeu JE, en fait. Et quand je dis toutes ces expériences, ça peut être les ruptures, les rejets, comme je l'ai mentionné là, les remodelages, etc., etc., y compris tout ce qui est de l'ordre de la mise à distance de l'autre, hein, des adultes, l'opposition à l'adulte, etc. Alors, cette question de la quête identitaire, elle s'articule avec la métamorphose que l'on va qui va être propre, encore une fois, hein, au processus adolescent, dans ce qu'on appelle la métamorphose pubertaire, qui va, de toute évidence, soumettre l'adolescent à une passivité qui peut être difficilement vécue. Alors, ce que nous disons là, c'est que les modifications corporelles, le changement du corps, un corps d'enfant qui va vers un autre corps finalement, peut susciter de nombreuses angoisses du côté de l'adolescent. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que ce corps pubertaire, c'est un corps qui échappe, même si l'adolescent ne peut pas le verbaliser comme tel. Et donc, un corps qui échappe, et donc du coup, ce corps-là, eh bien, l'adolescent va chercher à se l'approprier ou se le réapproprier. Quand je dis réapproprier, c'est que ça peut se faire à travers une expérience, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Donc c'est pour ça que du coup, ce qu'on peut dire, c'est que ce corps, il est à découvrir, il est à tester, il est à éprouver dans le jeu d'expériences, je dirais, nouvelles, répétées. Alors là, on est d'accord, hein, sur le fait que ces expériences peuvent être du côté de la créativité, comme je disais tout à l'heure, mais ça peut être aussi des expériences qui peuvent être du côté de l'auto-sabotage ou de la destructivité. Bon, là, on pense à toutes les conduites à risque, par exemple, qui soient du côté de la prise de substances psychoactives, qui soient du côté des conduites sexuelles, etc., etc. On peut donner d'autres exemples. Bon, donc du coup, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, le corps hein, est donc du coup soumis à des changements pubertaires que l'adolescent va vivre sur le mode de la passivité, parce qu'il ne peut rien contrôler de ces changements pubertaires, et donc ce qui peut entraîner du côté de l'adolescent des vécus de colère, des vécus de haine vis-à-vis de ce corps-là, de la maltraitance pardon des attaques, différentes formes d'attaques du corps et de son image. Alors là, évidemment, on peut retrouver toutes, je donnais des exemples, hein, des conduites sexuelles à risque, par exemple, mais évidemment, tout ce qui est de l'ordre des troubles du comportement alimentaire, tout ce qui est de l'ordre des automutilations, des scarifications, tout ça trouve sa place de ce côté-là, en fait. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que du côté de l'adolescent, hein, se pose ce conflit majeur, hein, comment faire face à la passivité, qui est finalement vécue, comment redevenir actif de son corps, comment rester maître de son corps, et je dirais par extension des choix qui s'y réfèrent. Bon, donc du coup, tout ça, c'est un questionnement normal à l'adolescence, hein, on est bien d'accord, mais comme je le précisais tout à l'heure, ce questionnement, il peut conduire l'adolescent en impasse, d'autant que, voilà, on peut tout à fait ici préciser l'intérêt ou la place fondamentale que revêt l'environnement de l'adolescent pour accompagner justement cette modalité du processus adolescent. J'y reviendrai plus tard concernant l'environnement. Alors, cette question de la métamorphose pubertaire, évidemment, va s'articuler avec la sexualisation du corps, puisque le corps de l'adolescent, c'est un corps qui se sexualise. Autrement dit, c'est un corps qui va vers de la sexualité, de la découverte de la sexualité, on pourrait dire comme ça, avec toute l'angoisse que peut générer la découverte de la sexualité, puisqu'il va être question, je dirais, d'une manière d'éprouver son corps, on peut le dire comme ça. Bon, apparaît avec cette modalité-là, hein, sexualisation du corps, des sentiments tout à fait nouveaux à ce moment-là, hein, pour l'adolescent, qui sont les sentiments de gêne, de pudeur, de honte, Ça ne veut pas dire qu'ils n'y étaient pas avant, mais là, ils sont, je dirais, exacerbés. Et donc, va se créer du côté de l'adolescent un besoin d'intimité, hein, on peut dire comme ça. Donc, on comprend à cette période-là en quoi il est extrêmement complexe, hein, quand on accompagne ces adolescents-là, de traiter, je dirais, la question du rapport au corps et de traiter la question de l'adolescent et la sexualité ou sa sexualité. Donc, c'est dire que le corps va apparaître comme le territoire de l'adolescent. Hein, c'est son territoire et c'est d'ailleurs assez significatif quand on voit bien que par son corps, l'adolescent peut venir témoigner, je dirais, d'une souffrance, par exemple, ou peut venir nous interpeller, nous, soignants, dans un appel à l'aide, par exemple, vous voyez, donc du coup, dans un appel à l'aide. Bon, je reviendrai sur la question du corps et du territoire. Ce corps-là, hein, c'est aussi la découverte d'un plaisir à travers ce corps qui est fondamental. Et on voit bien que les adolescents en difficulté sont des adolescents qui ont du mal à éprouver justement du plaisir ou à vivre des expériences de plaisir, de satisfaction justement à travers le corps. Donc c'est tout à fait intéressant de pouvoir interroger la place de l'érotisme ou les modalités, je dirais, de cet érotisme du côté de l'adolescent. Alors, on va le retrouver, hein, mais encore une fois, du côté exacerbé, à travers des exhibitions, des provocations, des jeux de séduction, des prises de risques. Et donc, du coup, tout ça est à entendre, je dirais, hein, du côté de la construction identitaire aussi, hein, c'est-à-dire pouvoir s'affirmer en tant que différent de l'autre. Hein. Donc du coup, on voit bien que à travers cette sexualisation du corps, progressivement, se constituer à la fois l'identité sexuée, hein, donc la manière dont je me représente appartenir à tel ou tel sexe, ou pas d'ailleurs, hein, et évidemment la question de l'identité sexuelle, donc du coup, qui renvoie à l'orientation sexuelle. Ça, c'est une question complètement d'actualité au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous rencontrez ça dans vos pratiques cliniques, mais on voit bien des adolescents, enfin aujourd'hui, on voit bien des adolescents qui ne se reconnaissent pas du tout du côté d'une identité sexuée genrée comme classique, on va dire, hein, et donc des adolescents qui vont revendiquer le fait de n'appartenir ni à l'un ni à l'autre sexe, avec une identité sexuelle, on va dire, polymorphe, voyez, donc du coup, bon, voilà. Nous, par exemple, à l'hôpital, hein, on va recevoir des adolescents qui sont dans cette... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça difficulté problématique, j'en sais rien, parce que ce sont des adolescents qui, par rapport à ces questions-là, ne montrent pas, en tout cas, de souffrance. Mais en tout cas, ce que je peux constater de mon côté, c'est que ce sont des ados qui vont arriver dans le service, pas du tout pour ça. Ils sont là parce qu'il y a des, une dépression, des tentatives de suicide, des scarifications, des choses comme ça. Vous voyez, donc du coup, qui sont quand même en lien avec le rapport au corps, mais une élaboration autour de l'identité sexuée et sexuelle qui ne renvoie pas du tout, je vais dire, au schéma classique que nous avons en tête, on peut dire comme ça. Alors évidemment, tout ça est en lien avec le réveil pulsionnel, ce qu'on peut dire là, c'est que, vous voyez, l'émergence de la sexualité va produire de l'excitation qui peut parfois déborder l'adolescent, vous voyez. J'ai mentionné ici que ça peut venir réactiver des problématiques psychiques infantiles, l'idée étant de... Je pensais par exemple ici à tout ce qui pouvait être des événements vécus comme de l'effraction traumatique justement par l'enfant. Je pense par exemple, je pense à des situations nous que nous avons accueillies d'adolescentes là pour le coup qui, au moment de l'adolescence et justement par l'émergence de la sexualité, se sont retrouvés complètement débordés au point de s'attaquer. Et en fait, voilà, en travaillant avec elles, ce qu'on pouvait repérer, c'était que, par exemple, elles avaient dormi assez tard avec leurs parents, et au moment de l'adolescence, cette période-là, était venue réactiver des angoisses en lien avec l'inceste, par exemple. Vous voyez, donc je pense à des problématiques comme ça. Et évidemment, j'imagine que vous avez aussi fait le lien avec tout ce qui est de l'ordre du traumatisme sexuel précoce, qui n'a pas son sens sexualisé au moment de l'enfance, mais au moment de l'adolescence, qui va prendre une connotation sexuelle et du coup qui peut venir, complètement désorganiser l'adolescent. Voilà ce à quoi je pensais. Bon, c'est dire que du coup, le processus d'adolescence, pour dire que c'est une violence qui est faite à l'adolescent, pour le coup. Et donc, du coup, cette violence, si l'adolescent ne peut s'en défaire, ne peut la traiter d'une certaine manière, ne peut faire avec, alors on peut imaginer qu'il peut être amené à agir pour justement arriver à s'apaiser. Et quand je parle d'agir, il faut l'entendre du côté de quelque chose qui est polymorphe. Je pense pas forcément à l'agir violent, mais en tout cas, agir, pouvoir être dans l'action, on pourrait dire, pour pouvoir se défaire des tensions psychiques. Il est évidemment important de préciser que la famille va être tout à fait centrale pour accompagner le processus de l'adolescence. Et donc, en fait, je voudrais juste évoquer ici le fait que quand le groupe familial ne peut pas accompagner justement l'adolescent dans son processus de construction identitaire, on peut comprendre que ça crée des difficultés. Et donc, je pense là notamment aux familles dont le lien est caractérisé, par exemple, par un déni des origines. Ce qu'on appelle là le déni des origines, c'est un déni des générations, le déni des sexes, par exemple. En tout cas, tout ce qui ne... Un groupe familial, en tout cas, dans lequel le rapport à l'autre ne serait pas structuré et structurant. Et donc, du coup, tout ça peut induire, finalement, de la désorganisation, de la confusion du côté de la construction de l'identité. Bon, là, je fais référence à ce que Racamier a évoqué du côté des figures de l'incestuel. Donc, tout ça pour dire que si les limites familiales ne sont pas suffisamment définies, ne sont pas suffisamment repérantes, structurantes, protectrices, alors on peut comprendre que pour l'adolescent, qui doit justement se constituer dans une identité stable et individuée, eh bien, tout ça va être d'une certaine manière, malmené, on peut dire comme ça. Et donc, on repère bien chez l'adolescent, quand il fait état d'agir violent, en quoi l'agir violent, finalement, peut venir actualiser justement cette confusion des rapports à l'interdit, aux limites, où par moment l'adolescent vient chercher ça en fait, d'une certaine manière. Du coup, tout ça pour dire que la place de l'environnement familial et sa spécificité, sa singularité, va être tout à fait intéressante à considérer pour comprendre aussi l'agir violent de l'adolescent. Alors, sur ce point-là, je crois que, ce qui me paraissait important de préciser, c'est en quoi, quand on travaille avec l'adolescent, on a affaire à une réalité psychique complexe. Ceci dit, c'est aussi vrai chez l'adulte. Mais ça me paraissait important de pouvoir préciser ici que dans notre lecture, ça paraît intéressant de tenir compte de trois espaces qui vont d'une certaine manière se confronter ou être en tension, on peut le dire comme ça. L'espace intrapsychique, donc qui concerne le fonctionnement psychique de l'adolescent, donc ça c'est ce qui est propre à son fonctionnement inconscient, hein, on pourrait dire. Le niveau intersubjectif ou l'espace intersubjectif qui lui va s'originer dans la structure familiale, donc quelle que soit la structure familiale. Et donc en fait, si vous voulez, on est ici, ce qui est ici intéressant, c'est la nature, la qualité du lien qui s'établit entre les membres de ce groupe familial. Et ensuite, le troisième espace, c'est ce qu'on appelle l'espace transsubjectif qui, lui, va prendre son origine, je dirais, dans le groupe. Et donc, du coup, on peut dire, hein, l'institution, évidemment, et constitue un de ces groupes-là, en fait. Hein. Et donc, en fait, ce qu'on peut préciser ici, c'est ce qui va nous intéresser, c'est comment l'adolescent, finalement, fait avec son intrapsychisme, je dirais, son intersubjectivité dans cet espace transsubjectif, en fait. Vous voyez, donc du coup, et cet espace transsubjectif, ça renvoie bien à un contexte social, culturel que nous allons partager ensemble. Vous voyez, donc du coup, alors moi, avec mes collègues, hein, je travaille souvent, enfin, je travaille régulièrement, hein, c'est-à-dire que du coup, dans notre espace, dans notre organisation institutionnelle, qu'est-ce que finalement l'adolescent donne à voir de l'intrapsychique et de l'intersubjectif, voyez. Sachant que on travaille aussi avec les familles, donc du coup, c'est tout à fait intéressant de pouvoir reprendre ce point-là. Ça me paraissait important de préciser ici la réalité psychique complexe, tout simplement parce que nous, cliniciens, quand nous sommes avec dans l'accompagnement de ces adolescents, on peut vivre, de l'impuissance. Et je crois que c'est normal que par moment on va se retrouver en difficulté, on ne sait pas quoi faire, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment faire. On bute. Je crois que c'est normal de pouvoir se dire, ben oui, par moment on va buter, parce que ce à quoi nous avons affaire est par définition complexe. Donc c'est dire que ça parfois, voilà, il y a certaines situations qui vont demander du temps, et je vous apprends rien, vous savez bien que le temps en institution est manquant, clairement. Je vais avancer pour aller sur la question du traumatisme. Alors, on peut dire, je ne vais pas m'attarder sur des définitions du traumatisme, sachant que si vous voulez, je n'ai aucun problème avec ça, je pourrais faire passer le diaporama, si vous avez besoin de revenir sur certains points, je le ferai passer sans aucun souci. Je voudrais simplement évoquer ici que le traumatisme va se présenter comme un choc violent. Ce qu'on appelle un choc violent ici, c'est le fait que, à un moment donné, le sujet va vivre une situation comme une expérience de débordement et de détresse face à ce débordement. J'insiste bien sur le fait qu'il y a un débordement psychologique, psychique même, on pourrait dire, et une détresse face à ce débordement dans le sens où je ne peux pas le traiter d'une certaine manière, voyez ? Alors ça nous paraît important. La difficulté à laquelle nous allons être confrontés, c'est que nous allons accompagner des adolescents qui peuvent avoir vécu des traumatismes précoces dans leur enfance, on va dire, mais ce sont des adolescents aussi qui peuvent vivre dans l'actuel, je vais dire, hein, des expériences traumatiques aussi, hein. Donc, autrement dit, des expériences qui peuvent affecter d'une certaine manière l'appareil psychique à un âge plus tardif. Ce qui me paraît important de préciser ici, c'est que ça n'est pas l'événement en soi qui est traumatique. Je vais peut-être vous heurter dans l'exemple que je vais vous donner, mais c'est pour que vous compreniez. Donc ce n'est pas l'événement en soi qui est traumatique, c'est bien l'incapacité par le sujet à l'intégrer à un niveau intrasubjectif. Autrement dit, c'est le fait que le sujet n'arrive pas à gérer, l'appareil psychique n'arrive pas à traiter l'événement auquel il est confronté, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à traiter les fractions auxquelles il est soumis. Voyez, je pense l'exemple qui peut heurter, c'est le suivant. Je pense à des adolescentes. Je le dis au féminin, non pas que les ados masculins ne sont pas concernés, c'est pas ça, mais c'est les exemples auxquels je pense, ce sont des adolescentes, c'est pour ça. Et donc du coup, je pense à une situation en particulier d'une adolescente qui, alors clairement, n'allait pas bien. Elle n'allait pas bien et ça se manifestait par une symptomatologie polymorphe. Donc quand je dis symptomatologie polymorphe, c'est que voilà, des troubles du comportement alimentaire, mais non caractérisés, des idées suicidaires, des scarifications, des tentatives de suicide, un niveau d'angoisse par moment qui ne pouvait plus se maîtriser, au point qu'il y avait une agressivité dans sa famille, enfin bon, voilà. Donc une ado en difficulté. Ce qui va se passer, c'est que dans le cadre de son hospitalisation, elle va révéler avoir été victime de violences sexuelles. De souvenir, c'était de la part d'un membre de la famille. Sauf que, du coup, on voit bien que du point de vue du fonctionnement psychique, il y a quelque chose qui est désorganisé, en fait. Hein. Mais pour autant, elle ne fait pas le lien avec l'événement qu'elle nous livre là. Elle ne fait pas le lien, elle ne se considère pas comme victime, etc., etc. C'est-à-dire que, du coup, elle fait comme si... Et alors du coup, la question qu'on va se poser, c'est que finalement en équipe, c'est bon, ok, elle révèle cet événement, mais est-ce que c'est l'événement ? Est-ce qu'on peut considérer cet événement comme du traumatisme ? Ça, c'est un exemple. Hein. Alors là, je vous dirais que oui, puisque voilà, sur le plan des manifestations cliniques, elle n'allait pas bien, l'adolescente, et c'est clair que voilà, dans tout son rapport au corps qui va être clairement en difficulté, et donc et le travail qu'on va engager avec elle, voilà, va dans le sens des hypothèses, de cette hypothèse-là. Mais au départ, on ne savait pas. Donc c'est dire que finalement, vous voyez, ce qui va faire ce qui va faire trauma finalement, c'est l'état d'impréparation de la psyché. C'est-à-dire que du coup, à la fois cet état d'impréparation et le fait que du coup, il ne peut pas traiter ce qui se passe, l'appareil psychique. Du coup, comment dire, on peut dire que dans ce traumatisme, il y a trois temps. Et finalement, c'est ce qui fait qu'on en arrive au troisième temps du traumatisme, c'est clairement le fait que le sujet va être dans une difficulté d'éprouver le sentiment de soi, on pourrait dire comme ça, va être dans une difficulté, voire dans une impossibilité à résister à la résonance négative du traumatisme, et donc du coup va être en difficulté de penser, de se défendre, voyez, donc, et d'agir, en fait. Hein. Et ça, on repère bien comment chez certains sujets traumatisés, hein, on entend bien comment ils sont, dans un état d'inertie, en fait, hein, pour avancer, on peut dire comme ça. Alors, le premier temps qui renvoie à un afflux d'excitation, c'est-à-dire que du coup, le sujet va être confronté à un événement qui va, d'une certaine manière, bousculer ses modalités défensives, on va le dire comme ça, et le sujet va se retrouver en difficulté pour faire face. Donc, du coup, quand je dis bousculer ses modalités défensives, c'est qu'il faut imaginer que les ressources internes vont s'épuiser progressivement ou peuvent s'épuiser progressivement et se trouver en échec. C'est parce que les ressources internes peuvent s'épuiser et se retrouver en échec qu'il y a ce passage à ce qu'on appelle le deuxième temps du processus traumatique. Alors évidemment, si on prend en charge à ce niveau-là, il y a quelque chose qui peut se maîtriser, hein, du côté du deuxième temps, on peut dire comme ça. Ce deuxième temps, finalement, va déclencher, c'est celui d'un déclenchement d'un état de détresse, en fait. Hein. C'est-à-dire que le sujet ne peut pas, d'une certaine manière, ne peut pas s'appuyer sur ce qu'on appelle un objet de recours, c'est-à-dire sur sur l'environnement ou sur ses propres ressources pour survivre à la détresse. Vous voyez, c'est-à-dire que du coup, quand on est en difficulté, la possibilité de s'appuyer sur l'autre ou de s'appuyer sur nos propres ressources nous permet d'apaiser un état de tension. Donc du coup, soit ça c'est possible, soit ça n'est pas possible, c'est-à-dire l'objet, l'environnement, l'objet ne se présente pas, ou la réponse qu'il va apporter n'est pas satisfaisante, et donc du coup, ça ne permet pas d'apaiser totalement un état de tension, et donc du coup, ça peut dégénérer en ce qu'on appelle un état traumatique. Et donc, ce qu'on va appeler l'état traumatique, c'est le troisième temps, c'est-à-dire que chez le sujet, on va retrouver de la souffrance psychique au premier plan, avec l'idée que ça va produire un état d'agonie, ou ce qu'on appelle des terreurs agonistiques, en fait. Hein, voyez, c'est-à-dire que du coup, c'est clairement ces états de détresse en lien avec une expérience de tension, et les personnes peuvent dire, voilà, je me sens pas bien, dans l'impasse, je suis toujours en tension, l'incapacité justement de retrouver d'une certaine manière de l'issue ou du recours à la fois sur le plan interne ou sur le plan externe. Vous voyez, donc du coup, pourquoi ce découpage est intéressant? Parce qu'il nous permet de repérer où on en est finalement avec le sujet pour justement nous permettre de penser l'accompagnement. Je vais pas plus loin concernant la question du traumatisme, mais j'insiste, je voudrais surtout insister sur le fait que le traumatisme, c'est à la fois cette excitation que la vie psychique ne va pas pouvoir traiter, en fait, mais pour considérer qu'on va faire aussi une expérience traumatique, on va considérer que le sujet fait état d'un vécu d'absence de recours, c'est-à-dire rien ne peut l'aider à se sortir de la situation qu'il vit, on va le dire comme ça. Alors pourquoi j'aborde ça? Parce que du côté de l'adolescent, évidemment, alors ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, le processus pubertaire peut être être considéré comme une expérience traumatique, mais d'autres vécus traumatiques peuvent, s'articuler avec cette expérience-là. Hein. Ça, je crois que ça, c'est important de le préciser. Et donc, les mouvements de lutte contre le traumatisme vont être, divers, selon le sujet, on peut dire comme ça. Et donc, tout ça pour dire que finalement, du côté de l'adolescent, on va voir apparaître des différentes stratégies que l'on appelle des stratégies de survie psychique, c'est-à-dire comment le psychisme peut arriver à faire face finalement. On peut utiliser une autre formule, hein, comment du côté de l'adolescent peut se penser le rétablissement d'une homéostasie psychique, hein, on pourrait le dire comme ça. Alors, ce que je veux, peut-être ce que je vais préciser ici, c'est que l'agir violent, il peut se révéler comme une solution défensive pour lutter contre, la résonance négative du traumatisme. Mais peut-être qu'il faut faire une nuance là. Nous ne disons pas que l'agir violent est toujours une solution défensive du trauma. Mais en tout cas, ça peut être une solution défensive pour lutter contre le trauma. Et alors du coup, on va parler de l'adolescent, de l'agir violent adolescence dans la littérature clinique, hein, psychanalytique bien évidemment, comme à la fois un moyen de lutte contre les effets du trauma, mais aussi comme une tentative de symboliser l'expérience traumatique. Tout à l'heure, je vous parlais de traumatisme non élaboré, c'est-à-dire de traumatisme non symbolisé. Qu'est-ce qu'on appelle les traumatismes non symbolisés? Ce sont les traumatismes, ce sont les vécus, plus exactement traumatiques, qui ne font pas l'objet, qui ne peuvent pas faire l'objet par l'adolescent de mise en pensée, hein, voyez, qui ne peuvent pas se traduire par de la pensée, qui ne peuvent pas se traduire du coup par des mots, M-O-T-S. Donc, ils ne peuvent pas se verbaliser, qui ne peuvent pas se penser, en fait. Hein, donc, du coup, qui restent en l'état, je dirais, de données brutes qui ne peuvent pas être traitées. C'est l'image que je pourrais vous donner, hein, qui pourrait un peu illustrer ça, c'est comment, finalement, amener l'adolescent pour lequel il y a eu effectivement du traumatisme, à dépasser son traumatisme, à dépasser ses traumatismes, c'est-à-dire du coup à vivre avec. Quand on dit on vit avec, ça veut dire comment on fait pour que ça se constitue en expérience de son histoire, mais sans que ça vienne nous désorganiser sur un plan psychique. C'est un peu ça l'idée. Bon, les adolescents que vous accompagnez, ce sont des adolescents qui sont clairement dans cette difficulté de symbolisation. Les méthodes projectives, justement, peuvent venir aider à ces, peuvent venir soutenir les capacités de symbolisation, justement parce qu'elles mettent l'adolescent en situation de devoir symboliser ce qu'il voit par du discours. On peut dire comme ça, que ce soit du Rorschach ou du TAT, même si ça vient pas investiguer les mêmes choses. Ce qui veut dire que du coup, pour les adolescents, vous voyez, si on a recours aux méthodes projectives, ce qui peut être intéressant, c'est évidemment le côté de l'évaluation, l'investigation de la personnalité, mais ce qui va être aussi intéressant, c'est le fait que ce sont des outils qui peuvent être utilisés comme de la médiation, justement, pour aider l'adolescent à se soutenir de processus de symbolisation. Bon, ça peut avoir cet intérêt-là. On peut utiliser d'autres méthodes, hein, pour travailler justement les processus de symbolisation, hein, c'est ce que je veux dire. Ok. Donc du coup, c'est pour dire que finalement, l'agir violent, finalement, il va être toujours en lien avec une difficulté de psychisation du conflit, c'est-à-dire de mentalisation du conflit. Vous voyez, l'adolescent, il est en premier lieu dans une difficulté à mentaliser bien souvent ce qui fait conflit en lui. Vous voyez, donc du coup, l'agir violent, il vient en place, je dirais, de mots d'une certaine manière. Vous voyez, donc du coup, alors à la fois, ça vient dire la difficulté vécue. Sa difficulté vécue, et en même temps, ça vient dire aussi une tentative, je dirais, de reprise de contrôle sur ce qui échappe d'une certaine manière. Voyez. Donc finalement, on pourrait dire que le sujet adolescent, il peut se vivre victime de ce qui se passe pour lui, à la fois du côté de l'envahissement pubertaire, mais aussi il peut être victime de sa propre histoire. Et donc, du coup, l'agir violent, ben, il peut être une façon de renverser d'une certaine manière la passivité vécue du côté d'une position de victime en une position agie. Hein, c'est moi qui agis et du coup, je me décale d'une position où je suis agi par l'autre. D'une certaine manière. Du coup, tout ça renvoie à ce qu'on appelle la fonction paradoxale de l'agir violent. Fonction paradoxale, parce que à la fois, ça, l'agir violent, il porte les traces, je dirais, de la fragilisation, et de l'effraction du pubertaire, mais aussi de l'effraction traumatique, si trauma il y a. Et en même temps, c'est l'agir violent, il participe au processus de symbolisation, de mise en sens de tout ce qui se passe pour l'adolescent. Évidemment, quand on dit que l'agir violent, il participe à tout ça, ça suppose que nous, quand on accueille l'adolescent, on permette finalement une mise en sens de l'agir violent. Ça n'arrive pas tout seul. Donc, du coup, comment, ça c'est une vraie question, hein, comment dans notre accompagnement on peut permettre à l'adolescent de dire quelque chose de son acte finalement, comment on peut lui permettre de se réapproprier quelque chose de son acte au regard de son histoire individuelle. Vous voyez, donc ça, ça fait partie des choses qui sont évidemment des axes de travail, à mon sens, incontournables. Bon, du coup, je vais aller plutôt sur la lecture psychocriminologique. Là, ce que je voulais simplement vous préciser, c'est que aujourd'hui, on considère que il y a trois configurations cliniques que l'on peut retrouver pour faire face justement au traumatisme et qui participent à ce que j'évoquais tout à l'heure du côté de la survie psychique. L'identification à l'agresseur, mais je l'aborde pas là, ce qu'on appelle la culpabilité primaire et ce qu'on appelle la pulsion traumatophilique. Ce sont des modèles, en fait, ce sont des stratégies de survie qu'on va retrouver du côté de l'adolescent et de l'agir violent. C'est-à-dire que du coup, ce que nous disons là, c'est que soit l'agir violent, il est sous-tendu par un processus d'identification à l'agresseur, soit par de la culpabilité primaire, soit par une pulsion traumatophilique. Donc, si vous voulez, c'est des voies possibles. Pour moi, ça n'est pas suffisant, du coup. Ça n'est pas suffisant parce que je vais l'aborder, ça ne tient pas compte finalement, ne serait-ce que de la place de l'environnement social, des opportunités sociales finalement qui peuvent se présenter à l'adolescent et qui, à mon sens, vont participer finalement à donner forme à l'agir violent. Donc du coup, ces modèles-là sont pour moi complétés d'une lecture psychocriminologique que je vais aborder ici. Que je vais aborder ici. En fait, le temps passe vite. Le temps passe vite. Et puis, comme je suis bavarde en plus, ça arrange pas. Bon. Les deux cas cliniques que je voulais vous présenter, c'était des cas dans lesquels l'adolescent se saisit de la rencontre avec le psychologue pour parler de lui-même, pour parler de sa souffrance. Et donc, alors, ce sont deux ados pour lesquels il y a de l'agir violent. Le premier cas clinique, l'agir violent, il est du côté de, notamment sur le plan relationnel avec sa famille, avec son environnement, voire lui-même aussi quand il peut dire que voilà, il a des consommations de substances psychoactives qui ont pour objectif, d'éviter de penser, de passer, être dans un état autre que celui d'un état raccroché à la réalité externe, on pourrait dire comme ça. Et l'autre cas, c'est le cas d'une adolescente qui, va progressivement rentrer dans de la délinquance. Donc ça va commencer par de la violence en lycée, etc. Et puis progressivement, elle va en arriver à de la délinquance. Et donc, en fait, ces deux cas cliniques, pour moi, je voulais vous les présenter pour illustrer en quoi, dans le discours de l'adolescent, on va repérer, un va-et-vient entre une position de victime et une position d'auteur. Alors, évidemment, on les rencontre du côté de « ils sont auteurs », mais dans leur discours, on voit bien comment il y a un désir, alors conscient, préconscient, inconscient, je ne sais pas, mais de se dessaisir d'une position d'auteur pour s'éprouver en tant que victime. Et on repère ça, un va-et-vient. Alors, certains auteurs parlent du clinique du déplacement, mais simplement pour dire que des adolescents qui ont vécu du traumatisme peuvent se retrouver à agir eux-mêmes de la violence et donc du coup à effracter l'autre. Sauf que, ça peut apparaître comme une modalité de traiter le traumatisme, sauf que ce qu'on repère souvent dans la clinique de l'agir violent, c'est que ce n'est pas juste un déplacement, c'est un retour, c'est une alternance, entre les positions victimées. Et ça nous paraît tout à fait intéressant. C'est-à-dire que du coup, ce qu'on peut repérer du côté de, de, des sujets hein, qui sont auteurs de violences, dans leur discours, c'est qu'il y a une alternance des positions agies, subies, des positions victimées, victimant. Donc c'est dire que finalement, dans le discours, les deux positions peuvent se voir complètement amalgamées. Ou, on pourrait, quand je dis amalgamées, c'est-à-dire que nous-mêmes, on ne sait plus si la personne qu'on a en face de nous, elle est auteur-victime, par exemple, voyez, ou susceptible de renversement, voyez. C'est-à-dire que du coup, ça peut aller d'une position à l'autre. L'adolescente à laquelle je faisais référence tout à l'heure, elle peut même dire que voilà, le fait que elle est coupable, elle est auteur de ce qui va arriver, d'une forme de maltraitance, parce qu'elle a révélé des faits d'agression sexuelle de la part d'un cousin, et donc du coup, elle se considère comme victimante vis-à-vis de son cousin, par exemple. Bon, c'est un exemple. Ce que je veux dire là, c'est que du point de vue socio-juridique, parce que vous travaillez avec ça, le lien entre victime et auteur, il paraît simple. C'est-à-dire que du coup, l'idée, c'est de pouvoir rechercher la responsabilité pénale, et donc du coup, de trancher de l'un et de l'autre, et donc du coup, de trancher sur les événements et les propos qui appartiennent à l'auteur ou à la victime. Du point de vue clinique, le lien ou le couple auteur-victime ou victime-auteur ne va pas de soi. Ce que je veux dire là, c'est que ça n'a pas du tout la même réalité, ça n'a pas le même sens qu'on se place du côté de l'auteur ou qu'on se place du côté de la victime. Et alors du coup, c'est tout à fait intéressant de pouvoir opérer comment un auteur, finalement, parle de ce qu'est un auteur et comment il parle de ce qu'est une victime, finalement. Voyez, évidemment, à travers la mise en récit de l'acte. Bon, je crois que ce couple auteur-victime, en tout cas, ça ouvre vers ce que moi, je cherche à développer du côté de la lecture psychocriminologique. C'est-à-dire qu'il me paraît fondamental de pouvoir étudier les modalités du rapport victime-victimé. Et ce que vous repérerez, ou ce que vous avez peut-être déjà repéré, c'est que les facteurs qui vont influencer les relations de l'un et de l'autre, les mécanismes qui vont intervenir dans le jeu de cette relation rapport victime-victimé, eh bien, sont toujours en lien avec le traumatisme et les modalités, je dirais, d'élaboration ou de non-élaboration du traumatisme. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait le point de jonction entre une position d'auteur et une position de victime, c'est la question du traumatisme. Et donc, du coup, il nous paraît tout à fait intéressant de pouvoir travailler avec ces ados, auteurs de violences, justement la circularité de ces mouvements défensifs, voilà, parce que au fond c'est pouvoir tenir compte que nous avons affaire à des dynamiques psychiques dans lesquelles en tout cas les positions de victime-victimé sont susceptibles de renversement. Et alors du coup, vous voyez, quand on dit il est dans le déni, elle est dans les négations, dans la négation, ou que dans le discours on dit bah attends, il cherche à se victimiser, par exemple. Tout ça, ce sont des indicateurs cliniques sur lesquels nous pouvons travailler. Nous devons, de mon point de vue, travailler. Je pense que faut que je m'arrête là, non? Qu'est-ce que vous en pensez si vous voulez discuter un peu?